Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un truc qu'on fait, mais des milliers de fois par jour sans jamais y penser. Parler. On va explorer ensemble la mécanique qui se cache derrière les sons du français. Comment est-ce que notre corps, avec juste un peu d'air et quelques mouvements, arrive à faire la différence entre poisson et boisson? Qu'est-ce qui distingue vraiment le son « che » de « chou » du « c » de « sou » ? On a l'impression que c'est un peu magique, mais on va voir que non. C'est une science, une mécanique d'une précision absolument folle. Pour cette exploration, on s'est appuyé sur une pile de documents assez fascinants. On a des cours universitaires sur la phonétique, des extraits de manuels de linguistique.
Les bases, quoi.
Voilà, les bases. Et aussi, et ça c'est passionnant, un mémoire en orthophonie qui vient vraiment ancrer toute cette théorie dans des cas très, très concrets. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démonter cette usine à sons qu'on a tous dans la gorge et la bouche pour enfin comprendre comment ça marche. Bon, alors pour commencer, il y a un point sur lequel toutes nos sources insistent vraiment lourdement. Une sorte de mise au clair indispensable. Il faut faire la différence entre la phonétique et la phonologie. Et j'avoue que pour moi, avant de lire tout ça, c'était un peu la même chose.
Ah oui, c'est le point de départ de tout en fait. Si on fait pas cette différence, on passe à côté de l'essentiel. Pour faire simple, la phonétique, c'est l'étude du son comme phénomène physique. C'est la partie ingénierie.
L'ingénierie.
Oui, on se demande comment concrètement on produit ce son. Quels muscles, quels organes sont impliqués. Une source donne un exemple très clair, celui du son « p ». La description phonétique, elle est purement mécanique. On pince les deux lèvres, on bloque l'air qui vient des poumons, la pression monte et hop, on relâche d'un coup.
D'accord.
C'est tout. La phonétique se moque de savoir si ce son « p » veut dire quelque chose.
C'est la fiche technique du son, en quelque sorte.
Exactement, c'est ça. Alors que la phonologie, elle, c'est l'étude de la fonction des sons dans une langue. C'est la partie architecture.
Ah, je vois.
La question, c'est plus comment, mais pourquoi ce son est important. La phonologie, elle observe qu'en français, les sons « b » et « m » sont cruciaux.
Cruciaux.
Radicalement. Donc ces deux sons ont une fonction, on dit qu'ils sont des phonèmes. Dans une autre langue, ben, peut-être que ça serait pas le cas.
D'accord. Donc, si je tente une analogie, la phonétique, ce serait comme un ingénieur qui étudie une brique. Son poids, sa texture, il s'intéresse à la brique pour ce qu'elle est.
Mm-hmm.
Et la phonologie, ce serait l'architecte qui se demande comment je peux utiliser cette brique par rapport à une poutre ou du verre pour construire une maison qui a un sens.
C'est ça. C'est une excellente image. C'est tout à fait ça. La phonétique nous donne l'inventaire des briques sonores et la phonologie, le plan de construction de la maison langue française.
Alors, allons-y, plongeons dans l'usine, côté ingénierie. Comment on fabrique un son, de A à Z? J'ai l'impression que ça part des poumons, mais après, c'est un peu le brouillon pour moi.
C'est exactement ça. Les sources décomposent le processus en trois grandes étapes, très logiques. La première, vous l'avez dite, c'est la respiration. Les poumons, c'est une soufflerie.
D'accord.
Ils expulsent de l'air. C'est notre carburant, l'énergie brute. Sans cet air, il n'y a aucun son possible.
Logique. C'est le souffle.
La deuxième étape, c'est la phonation. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. L'air remonte et il arrive dans le larynx, au niveau de la pomme d'Adam. Et là, il rencontre les cordes vocales. Et à ce moment précis, une décision fondamentale est prise.
Laquelle ?
Est-ce que les cordes vocales se rapprochent et se mettent à vibrer au passage de l'air, ou est-ce qu'elles restent écartées et le laissent passer ?
Ah.
Si elle vibre, on produit un son sonore. On dit aussi « voisé ». C'est le cas du B, du D, du Z.
Et si elle ne vibre pas?
On produit un son sourd ou non voisé, comme le P, le T, le S, le F.
Attendez, ça me paraît fou. Ça veut dire que toute la différence entre boisson et poisson,
oui,
des concepts qui n'ont rien à voir, ça se joue sur un minuscule interrupteur on-off dans notre gorge. Juste une petite vibration.
C'est exactement ça. Et c'est vertigineux quand on y pense. Pour le B de boisson et le P de poisson, tout le reste du mouvement dans la bouche, les lèvres qui se pincent, c'est quasiment identique.
C'est incroyable.
Mais pour le B, le moteur des cordes vocales est allumé. Pour le P, il est éteint. On peut même le sentir.
Comment ?
Mettez vos doigts sur votre gorge et dites V, 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 longtemps. Vous sentez la vibration.
V, V, V. Ah oui, en effet.
Maintenant, faites F.
Ah, plus rien.
Voilà. Pourtant, la position des lèvres et des dents est la même. C'est ça, un trait distinctif. Le plus petit élément qui peut changer le sens d'un mot.
C'est d'une efficacité redoutable. Et la troisième étape, alors ? en U, une fois que l'air est voisé ou non.
La troisième étape, c'est l'articulation. C'est la phase de sculpture, si vous voulez. L'air, vibrant ou non, entre dans les cavités au-dessus, le pharynx, la bouche, parfois le nez.
Les caisses de résonance.
Exactement. Et c'est là que la langue, les lèvres, les dents, le palais, tous ces articulateurs entrent en jeu, comme des sculpteurs pour donner au son sa forme finale, sa couleur unique. C'est cette étape qui crée l'immense diversité des sons.
Duo de sculpture, commençons par les consonnes, celles qui semblent mettre le plus d'obstacles sur le chemin de l'air. Les manuels les classent sur deux axes, le mode et le lieu d'articulation. En gros, la manière de bloquer l'air et l'endroit où on le bloque.
Précisément, le mode d'articulation, c'est la stratégie. La plus radicale, c'est le mode occlusif.
Occlusif, comme...
Qui ferme.
Oui, on bloque complètement le passage de l'air pendant un très court instant. La pression monte derrière et quand on relâche, ça crée une petite explosion. C'est le cas pour les sons P, B, T, D, K et G.
Oui, on sent bien cette petite explosion quand on dit « papa » ou « tata ». L'air s'accumule et « paf ».
Tout à fait. Une autre stratégie, c'est le mode constrictif ou fricatif. Là, on ne bloque pas, mais on force l'air à passer par un canal très étroit.
Ça frotte, du coup. Voilà, ce rétrécissement crée un bruit de friction. C'est le son du vent qui siffle. Ce sont les sons F, V, S, Z. Mais aussi le ch de chat et le juj de je. On peut les faire durer, contrairement aux occlusives.
Et c'est là qu'on peut faire le lien avec l'orthophonie, non? Le mémoire mentionne le sigmatisme, le fameux osotmion. Il explique que parfois, un enfant remplace le son S par un son T. C'est exactement cette différence de mode.
C'est un cas d'école. L'enfant veut produire un son constrictif, le S, qui demande de maintenir un tout petit canal entre la langue et le palais. C'est un geste très fin.
Très précis, j'imagine.
S'il n'y arrive pas, il ferme complètement le passage et il produit sans le vouloir une occlusive, le T, dont le point d'articulation est très proche. Il passe d'un frottement à une explosion.
Donc l'orthophoniste va lui réapprendre le geste physique ?
Exactement. C'est pas juste « prononce mieux ». C'est comme un coach sportif qui corrige une posture.
Je vois. Et il y avait un troisième mode important.
Oui, le mode nasal. Là, c'est encore une autre astuce. On bloque l'air dans la bouche, mais en même temps, on abaisse le voile du palais.
Cette petite membrane souple au fond.
Oui. Et ça, ça ouvre une porte de sortie vers le nez. L'air est dévié et s'échappe par les fosses nasales. C'est ce qui produit les sons m, ne et le ñ du mot montagne.
C'est drôle. Ça me rappelle quand j'étais enrhumé la semaine dernière. Impossible de dire « maman » correctement. Ça sortait comme « baba ».
Ah !
Je comprends pourquoi maintenant. Mon nez était bouché, la sortie nasale était fermée, l'air était obligé de sortir par la bouche et ça transformait le son nasal « me » en son occlusif « be ».
C'est l'expérience parfaite, c'est exactement ça. Se pincer le nez en disant « maman » produit le même effet.
D'accord. Donc le mode, c'est le type d'obstacle. Un mur, un passage étroit ou une déviation. Mais j'imagine que l'endroit où on le place change tout, c'est ça? Le fameux lieu d'articulation.
Tout à fait. C'est la deuxième coordonnée sur notre carte de la bouche. Et là encore, c'est d'une logique implacable. On part de l'avant et on va vers l'arrière. Tout au bout, on a les consonnes bilabiales. Les deux lèvres se touchent.
P, B, M. Facile à voir.
Juste après, on a les dents. Et donc les consonnes labio-dentales. La lèvre inférieure touche les dents du haut.
Ah oui, pour dire « feu » ou « veau », on sent la petite morsure de la lèvre. « F » et « veu ».
C'est ça. Un peu plus en arrière, on a un point de contact crucial en français. Les sources l'appellent le point apico-alvéo-dental.
Oula, on dirait le nom d'un dinosaure.
C'est un peu ça, mais c'est moins effrayant. Apico, c'est pour l'apex, la pointe de la langue.
D'accord.
Et alvéo-dental, c'est pour cette zone juste derrière les dents du haut. La petite crête qu'on sent avec la langue, les alvéoles.
Ah, je vois laquelle.
Faites le son t, t, t. L'endroit que votre langue touche, c'est ça. C'est le lieu d'articulation pour T, D et N.
C'est une véritable chorégraphie. Et pour les voyelles alors? Parce que là, l'air semble passer sans aucun obstacle. On sent ni blocage ni frottement.
C'est la différence fondamentale, oui. Pour une voyelle, le conduit est ouvert. Il n'y a pas d'obstruction qui crée un bruit. Le son d'obase, qui vient des cordes vocales, est simplement coloré, modifié, par la forme que prend toute la cavité buccale.
Comme une caisse de résonance d'une guitare.
C'est une très bonne image. Pour décrire cette forme, les sources utilisent trois critères principaux. Le premier, c'est l'aperture.
L'ouverture.
Plus précisément, la distance entre la langue et le palais. On peut aller d'une voyelle très fermée, comme le « i » de « si », où la langue est presque collée au palais, à une voyelle très ouverte, comme le « a » de « patte », où la langue est plate. Dites « i », puis « a ». Sentez votre mâchoire qui descend.
I, A. I, A. Ah oui, c'est flagrant. On sent le volume qui change.
Le deuxième critère, c'est le lieu d'articulation. Mais ici, ça désigne la position de la langue sur un axe avant-arrière.
D'accord.
Pour les voyelles antérieures, la langue est bombée vers l'avant, comme pour le I de si. Pour les postérieures, elle est massée vers l'arrière, comme pour le U de sous.
I, ou. I, ou. Ah, on sent vraiment la langue qui fait la navette d'avant en arrière. C'est fou de ne jamais y avoir prêté attention.
Et le troisième et dernier critère, c'est la labialité. C'est juste la forme des lèvres.
Ah, facile!
Oui, elles peuvent être écartées, comme un sourire pour le I, ou arrondies, projetées vers l'avant, comme pour faire un bisou pour les voyelles U ou O.
Comme dans saut.
Voilà. Et c'est la combinaison de ces trois réglages qui crée toute la palette des voyelles du français.
Donc si j'essaie de résumer... Les consonnes, ce sont les murs et les portes qui ponctuent le son. Et les voyelles, c'est la taille et la forme de la pièce dans laquelle le son résonne. C'est à peu près ça, hein.
C'est une très belle image. C'est exactement ça, hein. Les consonnes structurent le flux d'air par des obstacles. Les voyelles le colorent en modifiant l'espace de résonance.
Et cette précision millimétrée, j'imagine que quand elle n'est pas au rendez-vous, ça a des conséquences directes. Le mémoire sur l'orthophonie en parle.
Absolument. Comprendre cette mécanique est fondamental. Un autre exemple tiré des sources concerne les enfants porteurs de trisomie 21. Le mémoire explique qu'ils présentent souvent une hypotonie de la sphère orofaciale.
C'est-à-dire ?
En clair, un manque de tonicité des muscles, des lèvres, des joues, de la langue. Or, on vient de le voir, produire un T ou un D demande de pointer la langue avec force et précision contre les alvéoles.
Oui, il faut un minimum de force.
Cette hypotonie rend tous ces gestes beaucoup plus difficiles à réaliser. Le travail de l'orthophoniste sera alors aussi un travail de musculation pour redonner la maîtrise de cette mécanique de haute précision.
On voit bien que ce savoir n'est pas du tout abstrait. C'est de l'ingénierie inversée appliquée au corps humain. Alors, pour résumer ce parcours incroyable dans notre propre bouche, la parole, ce n'est pas juste une idée qui sort. C'est un acte physique, une performance athlétique, d'une complexité et d'une précision folle. C'est une coordination parfaite entre la respiration, la vibration des cordes vocales et cette chorégraphie de la langue et des lèvres.
Ce qui est fascinant et qui ressort de toutes les sources, c'est que tout notre système linguistique repose sur des distinctions infimes.
C'est vrai.
Le simple fait de laisser passer l'air par le nez ou la bouche nous donne la différence entre un « nez » et un « de ». Donc entre noix et doigt. Un léger arrondissement des lèvres, et hop, on transforme un son en un autre. On passe nos journées à jongler avec ça sans en avoir la moindre conscience.
Et ça m'amène à une dernière pensée, une question pour la route. On a vu la précision que demande la production de chaque son. Or, les sources mentionnent que de nombreuses consonnes finales en français, prononcées au Moyen-Âge, sont devenues muettes.
Oui.
Alors la question est là. Si chaque son est un geste physique si précis, quelles forces sociales, cognitives, peuvent bien amener des millions de personnes à décider collectivement, sans jamais se concerter, d'arrêter de produire le son T à la fin de petit, sauf dans des cas très précis comme un petit enfant?
C'est une excellente question.
Ça nous rappelle que cette magnifique mécanique n'est pas figée. C'est un système vivant qui évolue constamment, façonné non seulement par nos organes, mais aussi et surtout par notre histoire collective.